Vous êtes sur RTL.
Il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Elle était en garde à vue depuis vendredi, la femme de Michael Harpon. Le tueur de la préfecture de police a été relâché hier soir.
Elle avait pourtant échangé avec son mari de nombreux SMS le matin même du massacre. On évoquait même son rôle de complice. Elle est finalement libre, on va tenter de comprendre pourquoi. La France est-elle un pays trop attractif? Quel accueil réservé aux étrangers? Emmanuel Macron veut un débat sur l'immigration sans tabou cet après-midi à l'Assemblée. Près de 75 000 manifestants hier à Paris, premier coup de force des anti-PMA qui menacent déjà de redescendre dans la rue. Saint-Etienne remporte son derby face à Lyon, 1-0. Et puis nous ferons le bilan des mondiaux d'athlétisme au Qatar. Au-delà du sport, 45 degrés à l'extérieur, des tribunes quasiment vides. À 3 ans de la Coupe du Monde de foot, il y a de quoi s'inquiéter.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Comment un terroriste islamiste a-t-il pu évoluer au cœur de la police dans un service censé lutter justement contre les dérives de l'islam? On continue ce matin de s'interroger 4 jours après la tuerie perpétrée à la préfecture de police dans l'un des lieux probablement les plus surveillés de la capitale. Bonjour Jean-Alphonse Richard.
Bonjour.
On va revenir avec vous sur tous ces signes qui nous paraissent aujourd'hui alarmants mais qui n'ont pas été pris en compte à l'époque. Mais d'abord, la femme du terroriste. La femme, c'est l'information de la soirée. Elle a été relâchée après 3 jours de garde à vue.
Sans qu'aucune charge ne soit effectivement retenue contre elle, cette femme de 38 ans qui pouvait être effectivement soupçonnée de n'avoir rien fait pour empêcher son mari de commettre un carnage, en contact avec lui jusqu'au dernier moment, 33 SMS à caractère religieux échangés avant que Michael Harpon ne passe à l'acte. Eh bien, pendant 72 heures de garde à vue, des échanges en langue des signes, cette femme est sourde et muette, celle-ci n'a pas varié de version, elle a indiqué qu'elle ignorait tout du projet criminel de son époux. S'il y a eu autant de messages, explique-t-elle, c'est parce qu'elle s'inquiétait en fait depuis quelque temps du comportement agité de son mari. Elle craignait en fait que celui-ci ne mette fin à ses jours et tentait de le raisonner. Aucune complicité n'a donc pu être établie.
Jean-Alphonse, on a découvert tout au long du week-end de nouveaux éléments sur le comportement du terroriste et on a clairement l'impression ce matin d'un énorme ratage.
Oui, et c'est bien le sentiment qui prévaut à la préfecture de police comme au ministère, car dès 2015, Michael Harpon aurait pu faire l'objet d'un signalement. À cette époque, deux de ses collègues informent la hiérarchie que l'informaticien s'est réjoui de l'attentat contre Charlie Hebdo. C'est bien fait, a-t-il indiqué. Ils préviennent alors le major en charge de la radicalisation que Harpon s'est converti à l'islam et ne serrait plus la main des femmes, qu'il a été vu aussi en conversation vidéo sur son ordinateur avec un individu barbu. Autant d'informations qui vont s'envoler, car livrées verbalement, de façon quasi informelle, jamais inscrites noir sur blanc sur procès verbal, les collègues dénonciateurs craignant de passer pour des balances. Accusation jamais répétée par la suite, oubliée, permettant ainsi à Michael Harpon d'échapper à toute curiosité.
Merci beaucoup Jean-Alphonse Richard.
Alors ce drame pose une fois encore la question de la surveillance des radicalisés. Comment faire pour éviter qu'ils ne passent au travers des mailles du filet?
Fermer les mosquées salafistes, voire interdire le salafisme tout court, considéré par certains comme une dérive sectaire, comme après chaque attentat en France, les propositions abondent. Est-ce pour autant réellement efficace? Bonjour Mourad Djabari.
Bonjour.
Vous avez pour RTL mené l'enquête. D'abord, quand on parle de mosquées surveillées, a-t-on un chiffre ?
Eh bien, environ 200 mosquées sur les 2600 recensées en France sont dans le viseur des services de renseignement. Des mosquées de tendance salafiste, un courant religieux fondamentaliste mais pas illégal en France. Nathalie Goulet est sénatrice et présidente de la commission d'enquête sur l'organisation et la lutte des réseaux djihadistes en France. Et certaines mosquées dans le faisceau des renseignements sont maintenues ouvertes volontairement.
C'est un peu la théorie de la phalacox. Les mosquées restent ouvertes pour être mieux surveillées et pouvoir mieux appréhender les gens qui les fréquentent. Nos services de renseignement envoient des gens pour à la fois surveiller les prêches, mais aussi essayer de repérer les gens qui fréquentent ce type de mosquée.
Mais aujourd'hui, la surveillance des mosquées et des imams radicaux est plus compliquée. Ils ont bien conscience du durcissement ces dernières années de la surveillance des services de renseignement. D'après Mohamed Sifaoui, enseignant chargé des cours sur la radicalisation à la Sorbonne, il suffit simplement d'encadrer les imams en France.
Le problème, c'est que, en l'absence de clergé, le tout venant peut s'autoproclamer imam. Or, il se trouve que parfois, cette parole n'est pas du tout compatible avec les règles, les lois, les usages de la République. Par conséquent, je crois qu'il faudrait des cartes d'imamat, c'est-à-dire une carte qui permettrait de reconnaître qui sont les imams en France. Et ensuite, il faut sévir, c'est-à-dire dissoudre des associations qui pourraient représenter un quelconque danger terroriste.
C'est pourquoi plus de 15 mosquées salafistes ont été fermées depuis 2015. 2017.
Enquête signée Morad Djabari pour RTL. Il y a eu des failles, a reconnu hier Christophe Castaner. Il pouvait difficilement faire autrement. Le ministre de l'Intérieur, qui sera entendu demain par une délégation de députés chargés du renseignement, il a fait savoir qu'il excluait de démissionner.
RTL Matin, il est 7h06.
La mort d'un jeune homme de 22 ans hier à Villiers-le-Bel dans le quartier de la Cerisaie, alors que des policiers procédaient à une interpellation dans le secteur. L'homme au volant d'une moto volée roulait sur le trottoir à grande vitesse quand il a perdu le contrôle, percutant violemment un poteau métallique dans sa chute.
7 ans après la mobilisation contre le mariage gay, ils étaient donc plusieurs dizaines de milliers à défiler hier contre l'ouverture de la PMA à toutes les femmes.
74 500 personnes exactement selon un comptage du cabinet indépendant Occurrence. Les organisateurs, sans doute un peu gourmands, se sont vus 600 000 120 quarts de TGV affrétés pour l'occasion dans le cortège des slogans anti-PMA, anti-GPA aussi, car même si le gouvernement promet que le sujet n'est pas sur la table, pour Denis, militant parisien, ce n'est qu'une question de temps.
On nous sort des nouvelles lois en nous promettant que, de certaine façon, à chaque fois que c'est la dernière, hein, le PACS mais pas le mariage mais pas l'adoption, l'adoption mais pas la PMA, et maintenant c'est la PMA mais pas la GPA. Et le stade d'après, ce sera la GPA, et je ne sais pas quel sera le stade d'après. On a l'impression d'un torrent furieux que rien ne peut arrêter. C'est inquiétant, oui.
Denis, militant parisien au micro RTL de Thomas Dulin.
Dans un instant, débat sans tabou sur l'immigration, c'est la promesse d'Emmanuel Macron. Et ce sera tout à l'heure à l'Assemblée.
RTL 7h07.
RTL Matin.
RTL 7h09, la suite du journal. Dominique Tenza, Yves Calvi.
La France est-elle victime d'un système de santé trop généreux? Quelle politique d'accueil pour notre pays? Emmanuel Macron veut une discussion sans tabou.
Tout à l'heure à 16h à l'Assemblée, les députés débattront d'immigration. Pas de vote, mais à la clé d'éventuelles décisions concernant les soins médicaux offerts aux sans-papiers. On estime qu'ils sont en France environ 300 000 sans-papiers, mais pas sans travail, car beaucoup ont un job dans les fast-foods, dans les cuisines de certains restaurants que vous fréquentez peut-être. Portrait de l'un de ces invisibles rencontré par Sinamir pour RTL.
Depuis 5 ans en France, Makan Sira est arrivé du Mali, a enchaîné comme beaucoup des emplois différents depuis.
Pendant un an, faisais les travaux publics, quoi. Fini mon contrat là-bas.
Aujourd'hui dans la restauration, malgré 2 ans de contrats successifs, autant de cotisations et d'impôts payés, il a le droit au revers du quotidien du travailleur sans papier.
Du coup, je commence le travail à 8h, j'ai fini des fois à 22h, des fois à 21h. J'ai travaillé 6 jours et j'ai un jour de repos.
Quand vous faites des heures supplémentaires, elles vous sont payées?
Pas totalement. On ne peut pas être d'accord, parce que du coup, ils voient que je n'ai pas des papiers et si je déclare, je risque de perdre mon boulot.
Ah oui, ils sont en telle situation de vulnérabilité que de toute façon, ils n'ont pas d'autre choix. D'ailleurs, on leur fait bien comprendre. Hein.
Rémi Picot est secrétaire général adjoint de la CGT Commerce de Paris.
Bon, c'est très bien qu'il y a aussi du mano-mano. Hein. Je lui fais quelques heures en plus. On chicane sur les contrats, on les envoie un jour en CDD et puis ton CDD, on le transforme après en saisonnier. Au niveau de la concurrence, c'est un peu comme au Far West. Quoi. Le premier qui déréglemente, il tire le premier, il gagne. Mais l'autre, il est obligé de tirer aussi après. Et tout se déréglemente.
Et cela souvent dans des secteurs où la pénibilité et les horaires décalés sont plus importants. Le nettoyage, l'intérim, le bâtiment ou encore la restauration.
Un reportage de Sinamir pour RTL.
RTL Matin, 7h11.
Et maintenant, cette belle initiative ce matin d'un EHPAD de Loire-Atlantique qui propose une épicerie ambulante.
Sous la forme d'un gros chariot aux allures de comptoir de magasin, on peut y acheter des produits d'hygiène, des gâteaux, des chocolats, faire les courses, gérer son argent. Pour certains résidents très âgés, c'est parfois le dernier lien avec le monde extérieur. L'épicerie ambulante de Clisson, c'est RTL Un jour en France. Un reportage signé Patrice Gabart.
C'est l'épicerie, venez choisir.
Tous les lundis, l'épicerie ambulante défile dans les couloirs de l'hôpital Pierre de la Roche à Clisson et propose produits cosmétiques, gâteaux, friandises, papeterie et mots fléchés à la manœuvre Martine, animatrice.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? De l'eau de Cologne? Vous n'aviez plus d'eau de Cologne?
Non, j'en ai plus.
Alors, l'eau de Cologne, 4 euros.
Gérard, qui sort d'un long coma, apprécie ce rendez-vous.
C'est très bien, cette épicerie. Quand on a besoin de quelque chose, on peut prendre, quoi, voilà, acheter. Bon, c'est surtout pour les produits shampoing, les trucs comme ça, quoi.
Lancée en février dernier, cette épicerie ambulante remplit plusieurs objectifs. Mélanie Balestra, ergothérapeute.
Le premier, c'est quand même que la personne puisse retrouver un rôle social, qu'elle puisse de nouveau être acteur dans sa vie. Ensuite, de permettre à la personne d'être autonome sur toutes ses activités, on va dire, instrumentales. Et puis après, il y a aussi le bien-être que cela procure de pouvoir déguster son chocolat qui a été acheté par ses propres moyens, quoi.
C'est aussi un moment d'échange. Clarisse Rocheteau, cadre de santé.
Il y en a certains qui n'ont aucune visite, qui n'ont aucune famille. Et cette épicerie-là, justement, ramène de l'échange et ramène du relationnel.
Dans le même esprit, cette EHPAD propose chaque semaine une heure d'escrime à ses résidents.
C'était RTL Un jour en France, signé ce matin, Patrice Gabart.
Des mondiaux d'athlétisme qu'on aimerait bien vite oublier. Hein. L'équipe de France de retour du Qatar avec seulement 2 médailles, aucun titre. C'est un bilan très décevant.
Et puis on retiendra aussi de Doha une autre image. Hein. Cette chaleur étouffante, ces tribunes quasiment vides. Et cette question, est-il bien raisonnable de faire courir des athlètes quand le thermomètre affiche 45 degrés? À 3 ans du mondial de football, il y a sans doute, Jean-Michel Rascol, des questions à se poser.
Si l'athlétisme servait de répétition, le football a bien des craintes à avoir. André Giraud est le président de la Fédération française d'athlétisme.
Nous, on n'avait pas de public déjà. On mettait un temps fou pour aller au stade en autocar et c'était un petit championnat, il n'y avait personne dans les tribunes. Et quand les supporters vont débarquer, je suis curieux de savoir comment ça va se passer.
Quant aux acteurs, ils devront s'adapter. Bernard Amsalem est membre de la Fédération internationale.
Ils auront à jouer dans un stade, à sortir du stade pour aller s'entraîner à l'extérieur, à rentrer dans des vestiaires réfrigérés. Je pense qu'il faudrait que l'encadrement de ces sportifs, les médecins en particulier, prennent tout ça en compte pour éviter des accidents ou des traumatismes physiques ou psychologiques à cause de ça.
Et puis, au-delà de l'événement, il y a ses conséquences.
L'impact en termes de rejet de carbone sera énorme à l'échelle d'un petit pays comme le Qatar. Et je pense que là, l'opinion publique sera encore plus polarisée sur le sujet. Ça pose des questions de fond.
Même déplacée en novembre et décembre 2022, cette Coupe du Monde sera celle de tous les excès.
Jean-Michel Rascol, envoyé spécial de RTL au Qatar. En football, Claude Puel peut se réjouir. Le nouvel entraîneur de Saint-Etienne a remporté hier soir le derby face à Lyon 1-0 grâce à un but de Berić à la 90e minute, un peu plus tôt dans la journée. Reims s'est imposé 1-0 face à Rennes, 2-2 entre Lille et Nîmes.
Les courses, elles ont lieu aujourd'hui à Enghien-Soisy.
Et les pronostics de Dominique Cordier, le 4, l'As, le 7, le 3, le 6, le 14, le 9 et le 12. La dernière minute, c'est le 6, Dulciné du Dollar, la course du Quintet à suivre sur 6play.fr à 13h47.
Et c'était le journal de Dominique Tenza. Dans un instant.